En septembre dernier, elle incarnait de la vie de tous une bouleversante dame aux camélias sur les planches du Théâtre National de Bretagne. Avant cela, de la Bérénice de Racine à la Célimène de Molière, de la Lady Macbeth de Shakespeare aux Nina, la Mouette et Macha, les trois sœurs de Tchekhov, elle a interprété les plus grands rôles féminins au théâtre. La Comédie Française ne s'y est pas trompée, qui l'a recrutée comme pensionnaire en 2007, avant qu'elle reprenne sa liberté en 2013. Depuis, sa carrière oscille entre théâtre, cinéma et télévision, jeux et mise en scène. On la verra dès jeudi prochain sur France 2 dans une nouvelle série haletante, Philharmonia, où elle joue une grande chef d'orchestre.
Je vous demande d'accueillir notre nouveau directeur musical et chef d'orchestre, Madame Barizet.
C'est une imposture cette gonzesse, elle mérite pas tout ce qu'elle a.
Elle va vite s'en rendre compte, Adiva.
Je veux Selena Rivière comme premier violon.
C'est impossible, vous le savez très bien.
Rien que toi pour reconnaître ce type de talent. Sublime mais encore sauvage.
Pourquoi ta femme est armée?
Tu vous fais peur? Comment va maman?
Tu lui as manqué, puis moi aussi.
J'aurais dû te tuer!
Si jamais vous êtes porteuse du gène, vous allez devenir dangereuse pour vous et pour vos proches.
On va vraiment passer pour un orchestre maudit.
Les premiers symptômes sont des troubles du comportement, une grande fatigue, des gestes incontrôlés.
Elle est folle, la Barizet, faut qu'elle aille se faire soigner, hein!
Les hallucinations, et puis la folie qui ronge, qui tue.
Est-ce que j'aurais pu tuer quelqu'un, et pas mon souvenir?
Bonjour Marie-Sophie Verdane.
Bonjour.
Et bienvenue dans ces matins du samedi. Ça donne le ton, hein, cette bande-annonce de Philharmonia. C'est un thriller dans le monde de la musique classique?
Oui, exactement.
C'est ça? Compliqué de jouer dans un thriller quand on est chef d'orchestre et quand on est une comédienne comme vous l'êtes?
Je crois qu'il faut surtout pas se dire qu'on joue dans un thriller, parce que sinon on essaye de caractériser toutes les scènes, mais de prendre moment par moment ce qui se passe, et puis ça sera au spectateur de comprendre et de réajuster les morceaux pour comprendre qu'on est dans une ambiance
un peu particulière.
Très complexe,
oui, c'est ça, il faut laisser le suspense. On va se laisser porter d'ailleurs comme vous, peut-être scène par scène, morceau par morceau. En tous les cas, vous jouez Hélène Barizet, chef d'orchestre de retour de New York. Elle vient d'être nommée à la tête de l'Orchestre Philharmonie de Paris. Qui est cette femme? Elle est étrange, on ne sait pas très, très bien comment la cerner.
Elle a un tempérament clivant, c'est comme ça qu'elle apparaît tout de suite. Elle était premier violon et puis elle est partie faire toute sa carrière à l'étranger. Elle revient non désirée par l'orchestre en place.
Ah, elle n'est pas la bienvenue, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a un qui lui dit, un des musiciens qui lui dit, les chefs passent, l'orchestre reste.
Oui, parce qu'ils avaient voté pour quelqu'un d'autre. Ils voulaient le successeur du chef qui vient de mourir et ils pensent qu'elle est placée là par le ministère pour des mauvaises raisons.
Qu'elle est parachutée
parce que c'est une femme, parce que voilà. Et donc, dans ces cas-là, ça durcit les premiers rapports parce qu'elle arrive ne se sentant pas désirée, mais désirant travailler avec ces personnes et essayant tout de suite de proposer son style de travail qui est assez particulier.
Vous dites, Marie-Sophie Verdane, c'est aussi une femme qui arrive et qui est nommée là à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Paris. Quand on sait qu'il y a 3% des chefs d'orchestre en France qui sont des femmes et que le milieu de la musique est un milieu particulièrement sexiste, hein, dans lequel les femmes sont souvent rabaissées, très mal considérées. C'est vrai que dès qu'on regarde les premiers épisodes de Philharmonia, cette dominante misogyne est très forte. Aucune femme à la tête d'un grand orchestre national de France, c'est une revendication de Louis Choquette, le réalisateur, de jouer avec ça aussi et de le mettre en scène dans le film, dans la série.
C'est une revendication plutôt des scénaristes et de la productrice. C'est une équipe de femmes qui est à l'origine de ce projet et qui était surprise par le manque de représentation des femmes à la tête des grands orchestres, mais aussi des grands groupes de direction culturelle. Donc ils ont essayé de s'interroger sur cette absence. Et puis j'en parle parce que c'est une des premières choses que dit l'entourage à l'orchestre et même la direction technique, de dire pourquoi c'est une femme qui arrive. C'est... voilà.
4, 5. Ne jouez pas pour épater vos collègues.
Surtout que j'ai l'impression qu'il joue aussi bien que vous.
Et puis, tous, il faut un peu plus de nerfs, il faut un peu plus de mystère pour cette musique. Mademoiselle Robinson, faites-moi croire que Tom Cruise va rentrer dans cette salle et puis redressez-vous. Ce serait dommage de finir bossu à votre âge.
Je vous ai dit qu'elle connaissait le nom de tout le monde.
Maître, ne dirigez plus votre pupitre. J'aimerais les entendre. Mesure 11. 4, 5.
Marie-Sophie Ferdan, dans cette série, on l'entend là, vous dirigez, mais vous dirigez les comédiens musiciens, vous dirigez aussi les vrais musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France.
Oui, c'était ça qui était incroyable dans cette aventure, c'est que les 10 comédiens qui jouaient d'un instrument se sont mélangés aux 80 instrumentistes de l'ONDIF, et que face à moi, j'avais des acteurs qui sont bien au courant de du jeu dans lequel nous sommes, faire semblant, essayer de faire croire, mais aussi des musiciens qui jouaient réellement leur partition à ce moment-là, et qui étaient dans un autre rapport au jeu et au temps présent.
Bon, vous êtes musicienne, hein, vous-même, vous avez fait du violon, comme Hélène Barizet dans le film. Vous êtes diplômée en violon et en chant du Conservatoire de Grenoble. On vous voit jouer dans la série du piano, un peu de violon, puisque vous prenez sous votre aile, un peu bizarrement d'ailleurs, mais la comédienne Lina El Arabi, qui joue une jeune prodige de 20 ans du violon et que vous nommez tout de suite comme premier violon. Vous avez fait vous-même partie d'un orchestre, l'orchestre du Conservatoire de Grenoble. Ça vous a aidé à préparer ce rôle de chef d'orchestre, tout ça?
Oui, et puis c'était ces premiers souvenirs. J'ai participé enfant à un orchestre d'enfants à Grenoble, et c'est ce qui m'a donné véritablement le goût de la musique, c'était de jouer avec les autres, parce que même de manière très modeste, hein, c'était très très simple ce que nous faisions, mais on le faisait ensemble. Et ce qui m'a plu et attiré dans cette série, c'était la possibilité de retrouver cet orchestre, bon, de l'autre côté, celui de la direction, mais d'être en présence de ce climat, de cette ambiance, de ces gens qui se retrouvent pour faire de la musique, et qui m'a marqué profondément depuis que je suis toute petite.
De l'autre côté, en l'occurrence, donc quand on est chef d'orchestre, qu'est-ce qu'on éprouve? Puisque vous l'avez fait, du coup, même si vous faites semblant vous ne faites pas semblant de diriger, au final, Marie-Sophie Ferdan.
J'ai été formée par un jeune chef d'orchestre.
Christophe Dilist.
Christophe Dilist, qui est extraordinaire, qui patiemment, on avait beaucoup d'œuvres à travailler, et il venait pour me donner une liberté pendant les prises de croire, de comprendre les grands mouvements avec les moyens du bord, hein, parce que je prétends pas du tout avoir les moyens techniques réels d'un chef, mais d'essayer de comprendre les grands mouvements d'une partition. On a fait ce travail avec le plus grand sérieux pour pouvoir y croire, et puis pour que les musiciens essayent de croire aussi aux gestes, même fragile que nous proposions, lui et moi.
Et chacun, chaque chef d'orchestre a sa propre gestique, a sa propre relation à la communauté qui est la communauté des musiciens. Sur quoi avez-vous cherché à travailler, avec l'aide donc de Christophe Dilist, sur quoi avez-vous cherché à travailler, sur le regard, sur la main, sur c'est pas un sentiment de puissance, un sentiment de communion, de faire corps avec l'orchestre?
Christophe Dilist voulait partir, il m'a dit: je veux pas t'imposer une gestique, on n'a pas assez de temps. Il venait le matin très tôt ou le soir après, mais tout ça était dans un grand stress quand même, il fallait aller vite, et puis il y avait presque 6 symphonies, donc voilà. Il m'a dit: je vais partir de ton corps, de tes bras, de ta façon de bouger, pour essayer d'être le plus précis, le plus clair. Il faut que les signaux que tu envoies aux 80 musiciens soient extrêmement lisibles, pour pas faire n'importe quoi. Et donc le travail, c'était sur la précision des mains, la battue, mais aussi sur les nuances, la différenciation entre la main gauche et la main droite, entre le rythme et l'émotion. Il m'a expliqué beaucoup de choses en un temps record, mais il me dit: on va faire peu de choses, mais on va essayer de le faire bien. Il voulait ne pas rougir de son travail, parce que pour lui c'est important, c'est l'essentiel de sa vie.
Est-ce que vous avez regardé aussi des femmes chefs oui. d'orchestre?
Oui, oui. J'ai regardé beaucoup de chefs, quel que soit leur sexe. D'ailleurs, je voulais sentir comment ils appréhendaient physiquement, même dans leur regard. J'ai écouté beaucoup d'interviews. Et puis... pour me familiariser aussi avec ces personnalités très singulières, solitaires souvent, isolées, et puis très puissantes et assez fascinantes. Donc j'ai regardé beaucoup de personnes, oui.
Alors par exemple, je vais vous en faire écouter une, Barbara Hannigan, sur France, au hasard. France Musique, en 2017, elle explique son propre geste à elle. Écoutez-la.
I think the other thing is one has to find your own
chaque chef d'orchestre doit mettre au point sa propre gestuelle. Évidemment, on peut apprendre les rudiments, mais on sait que l'on soit spectateur ou musicien et que l'on regarde le chef d'orchestre, quelle que soit la qualité de sa technique, parfois l'énergie n'est pas appropriée. Ou alors, il y a des chefs qui semblent ne pas avoir de technique et qui semblent simplement agiter les bras. Mais tout le monde suit les gestes comme si c'était un corps orchestral qui suit de manière parfaitement synchrone tout ce qui se passe dans le corps du chef. C'est incroyable. Donc, le travail du chef d'orchestre, on ne peut pas tout saisir. Et moi, tout au long de ma carrière, notamment dans mon travail de chef, je comprends bien qu'il y a certains chefs avec qui je travaille, dont Simon et plus récemment Vladimir Jurovsky, qui se consacrent tellement à chaque instant de leur travail que c'est formidable. Je vais vous donner un exemple. À Glyndebourne, on a chanté Hamlet, le Hamlet de Brett Dean. Après la couturière de Hamlet, Vladimir Jurovsky est revenu à Glyndebourne et nous, nous étions en congé et il a passé la journée à répéter avec les remplaçants. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il devait connaître leurs forces et leurs faiblesses si l'un des titulaires tombait malade, pour ne pas mettre en péril la production au dernier moment. Il ne voulait pas être pris au dépourvu. C'est incroyablement rare, ce genre d'attitude.
Marie-Sophie Ferdan, vous l'aimez beaucoup, Barbara.
Oui, mais comment ne pas l'aimer? Elle est extraordinaire. Elle est d'une puissance, d'une intelligence et d'une humilité aussi, parce que ce qu'elle met en avant, on l'entend bien dans cet extrait que vous avez choisi, c'est la foi dans le travail, c'est le rapport à l'obsession, à la répétition, à l'humilité de cette recherche. Et puis, je crois qu'elle est très à l'écoute elle-même des musiciens qu'elle dirige. Elle essaie toujours, est-ce qu'elle travaille aussi avec des jeunes, avec qui elle essaie de transmettre tout ce qu'elle a appris dans sa vie. Et elle essaie de comprendre toujours cette chose qu'elle a dit, que j'ai entendue une fois, comment aider, comment être le plus clair possible pour les musiciens, comment être le plus utile. Et je crois que c'est une position très humble qui rend compte de son talent immense, de ne pas penser... J'arrive en imposant les choses, mais en proposant tout le travail que j'ai derrière moi pour aider les gens qui sont devant moi à monter ensemble pour construire ce travail qu'on va faire devant les gens. C'est fantastique.
Marie-Sophie Ferdan, dans la série Philharmonia, on entend régulièrement les musiciens, et en particulier vous, dire deux petits mots un peu étranges. Toi, toi, qu'est-ce que c'est que ce toi, toi?
C'est la façon de se saluer avant de jouer pour se porter chance. Vous savez, au théâtre, on dit merde avant d'entrer en scène.
Et bah, dans le monde musical, on dit toi-toi. Alors vous êtes venu assez tardivement au jeu, à la scène, au théâtre. Vous avez commencé par des études de lettres, après avoir fait beaucoup de musique. Qu'est-ce qui vous a poussé à la scène, au jeu, au théâtre?
C'est des successions de rencontres. J'étais étudiante à Normale Sup, et puis dans le gymnase de l'école, le week-end, il y avait des matchs d'ateliers d'improvisation, et on m'a proposé d'y participer. Et de fil en aiguille, comme ça, je suis restée, parce que ça me plaisait beaucoup d'être en groupe à jouer. C'était très drôle, on s'amusait beaucoup. Et puis la personne qui s'occupait de ce club montait un spectacle à la fin de l'année. Elle m'a proposé d'y participer. Et là, ça a été comme une évidence, que j'étais bien avec ces gens, que j'étais bien à jouer avec eux, et que je retrouvais les textes que j'aimais tant, avec qui je passais tant de temps. Mais au lieu d'être seule à les aimer dans ma chambre et dans une solitude assez grande, je pouvais partager cet amour des textes avec les autres. Et c'était mieux.
Et c'était mieux, et ça a été encore mieux au fur et à mesure de votre carrière qui vous a aussi conduite à la Comédie Française, où vous êtes entrée comme pensionnaire en 2007. Vous y êtes restée 6 ans. Qu'est-ce que vous... C'est votre choix d'en être partie, hein, je le répète, c'est, vous avez vraiment voulu reprendre votre liberté. Mais qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de la Comédie Française?
Je retiens l'endurance et la force de travail et la nécessaire humilité pour participer à une entreprise qui ouvre ses portes tous les soirs de l'année, dans 3 lieux en même temps, et qui demande à la troupe d'être au service de cette immense ambition de proproposer parfois 3 spectacles par jour. Il faut être au service d'une cause, au service d'une grande institution, et de travailler de manière presque athlétique le jeu et la souplesse de l'acteur, parce que il n'y a pas le temps du doute ou de l'introspection ou de la crise. Il faut jouer, il faut être efficace, il faut être clair et il faut avancer.
Vous dites, Marie-Sophie Ferdan, être actrice, ça n'est pas un métier, c'est une façon de vivre. Mmh. Ça veut dire quoi pour vous?
Ça veut dire qu'on n'arrête pas le soir en quittant un endroit en disant voilà, c'est fini. C'est que les mots que vous avez dit la journée vous accompagnent, ils pénètrent dans vos rêves, ils continuent d'infuser, que les émotions violentes que vous avez éprouvées ne s'arrêtent pas à 18h parce que c'est la pause, et que votre vie est déterminée et modelée par les lectures, par les rencontres, par cet exercice un peu étrange de se mettre dans le noir, dans une boîte noire toute sa vie, à imaginer et à rendre hommage à ceux qui ont imaginé avant vous.
Vous êtes une comédienne plutôt discrète, on vous voit très peu dans les médias, vous intervenez très peu, merci encore d'être là du coup ce matin. Est-ce que c'est par pudeur, par méfiance, par prudence, par manque de temps, par...
Non, je sais pas. C'est comme ça.
C'est parce qu'on vous appelle pas.
Si, regardez, en ce moment, on m'appelle beaucoup. Non, je sais pas. C'est pas
par choix, en tout cas.
C'est pas notre métier. D'abord, je crois que, enfin, même si c'est dit, je viens de dire que c'était pas un métier, mais l'essentiel de notre temps, il est pas à expliquer ce qu'on fait. Il est plutôt à essayer de le faire un peu mieux chaque jour. Donc, ça prend beaucoup de temps parce que c'est laborieux. Ça prend du temps d'essayer de le faire bien et donc on y consacre toute notre vie.
Alors vous reprenez, en plus donc de jouer dans cette série, mais maintenant elle est tournée, vous reprenez début février au théâtre La 7e vie de Patti Smith, que vous avez joué, je crois, l'automne dernier à Rennes. Qu'est-ce que représente Patti Smith? Vous jouez pas Patti Smith, je crois que vous jouez une jeune fille de 16 ans qui aime particulièrement Patti Smith.
Une jeune fille, une fan, qui est mal dans sa peau, qui se pose des questions par rapport à sa sexualité, et qui, en entendant un jour la voix de Patti Smith, comprend quelque chose de la vie qu'elle va suivre tout au long de son existence. Elle va aller à des concerts de Patti Smith. Et c'est là, en fait, je joue les deux. Je joue la jeune fille naïve et puis l'icône qu'elle va voir de manière frénétique et passionnée. Et c'est ce va-et-vient entre ne pas trouver de sens à sa vie et une qui a vraiment trouvé un sens et une façon somptueuse de le déployer. C'est ce va-et-vient que raconte... Ce spectacle avec deux musiciens, deux guitaristes, Seb Martel et Thomas Fernier qui sont sur scène.
Vous êtes un peu capable de tout jouer, quoi, en fait, hein. Qu'est-ce qui détermine le choix d'un personnage, le choix d'un rôle pour vous?
L'envie d'aller dans un autre monde et puis de sortir de choses que j'ai pu déjà expérimenter, d'être déplacée, de rentrer dans un autre imaginaire et de vivre d'autres vies que la mienne.
Alors Marie-Sophie Ferdan, on va vous retrouver dans 2 minutes, juste après les titres de l'actualité. Restez surtout avec nous. Philharmonia, c'est donc 6 fois 52 minutes diffusées sur France 2 à partir de mercredi prochain. J'avais dit jeudi, je me suis trompée, c'est mercredi prochain, à raison de 2 épisodes par semaine et c'est à 21h. La 7e vie de Patti Smith de Claudine Galéa, mise en scène de Benoît Bradel, ça sera au 104 à Paris les 7, 8 et 9 février. Il est 7h30 sur France Culture. On retrouve notre invitée, la comédienne Marie-Sophie Ferdan. Marie-Sophie Ferdan, dans une première vie, vous avez été professeure de lettres. Et puis j'ai lu que le samedi matin, vous apportiez souvent un gros sac de livres pour lire à vos élèves 5 ou 6 débuts de romans. Alors ce soir, c'est la nuit de la lecture, un peu partout en France et dans 29 pays. Est-ce que en avant-première, puisque vous avez comme avec vos élèves apporté un gros sac de livres et que vous avez dispatché les livres sur la table, vous nous liriez, je sais pas, quelques lectures à voix haute. Alors déjà, peut-être un mot sur ce que vous aimez particulièrement. Il y a du Duras, il y a du Flaubert, il y a la littérature médiévale dans votre panthéon littéraire.
Oui, mais ce matin, j'ai pris un peu...
J'ai pris, tous azimuts.
J'ai pris La vie matérielle de Duras, j'ai pris La correspondance de Flaubert, Dévotion de Patti Smith, qui est son dernier roman. J'ai pris Tiens ferme ta couronne de Yannick Enel.
Ah, la littérature contemporaine aussi, donc.
Oui, beaucoup.
Très contemporaine, très actuelle.
Et puis Les essais de Montaigne. Et du coup, je suis au milieu
que
de...
Que prendre On va piocher vers lequel va votre œil, vos yeux là. Il y a plusieurs pages qui sont ouvertes. Il y a les correspondances de Flaubert, il y a le Yannick Enel, et puis vous avez aussi en main le Montaigne.
Oui.
Allez, plouf.
Bon, Montaigne.
Allez,
non, je sais pas.
Parti, Montaigne. Bon, si on a le temps, on en lira peut-être un deuxième.
C'est La vie au lecteur, mais juste peut-être le début. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin, que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis, à ce que m'ayant perdu, ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen, ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont eue de moi.
Vous aimez lire à voix haute ?
Oui, je crois que j'aimais bien quand on me lisait des choses. J'aimais bien écouter la radio aussi pour ça, m'endormir avec la radio, avec des gens qui vous lisent des histoires. Je trouve que la voix, ça vous emmène ailleurs, ça vous libère de beaucoup de choses. Et j'aime bien lire pour les autres aussi, oui.
Vous avez d'ailleurs enregistré, il me semble, en tout cas lu à voix haute, un livre d'Éric Reinhardt, L'amour et les forêts. Donc effectivement, l'exercice de lire pour les autres. Sur une scène, ça vous arrivait de le faire, de lire ?
Oui, souvent, on nous demande souvent ça aux acteurs de venir. J'aime beaucoup parce que ça crée une détente, je pense, pour les gens, parce qu'il n'y a pas l'enjeu de la mise en scène, de la compréhension, de beaucoup de choses. Il y a juste se laisser porter par une voix. Et c'est un rapport très direct comme ça, entre le spectateur et l'acteur qui se crée. Et ça donne souvent des moments d'écoute assez, assez forts, assez simples, que j'aime bien.
Bon, bah alors on va en reprendre un, hein, puisque vous hésitiez entre Montaigne et peut-être Yannick Enel est ouvert devant vous. Alors tiens ferme ta couronne. Je sais pas si c'est son dernier ou l'avant-dernier.
C'est
son dernier.
Qui est extraordinaire. À cette époque, j'étais fou. J'avais dans mes valises un scénario de 700 pages sur la vie de Melville. Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, le plus grand écrivain américain, celui qui, en lançant le capitaine Ahab sur les traces de la baleine blanche, avait allumé une mutinerie aux dimensions du monde et offert à travers ses livres des tourbillons de prophéties auxquels je m'accrochais depuis des années. Melville, dont la vie avait été une continuelle catastrophe, qui n'avait fait à chaque instant que se battre contre l'idée de son propre suicide, et après avoir vécu des aventures fabuleuses dans les mers du Sud et connu le succès en les racontant, s'était soudain converti à la littérature, c'est-à-dire à une conception de la parole comme vérité, et avait écrit Mardi, que personne n'avait lu, puis Pierre ou les ambiguïtés, que personne n'avait lu, puis Le grand escroc, que personne n'avait lu, avant de se cloîtrer pour les 19 dernières années de sa vie dans un bureau des douanes de New York et de déclarer à son ami Nathaniel Hawthorne « Quand bien même j'écrirai les évangiles en ce siècle, je finirai dans le ruisseau. » J'étais fou, peut-être, mais j'avais écrit ce scénario pour faire entendre ce qui habite la solitude d'un écrivain. Je savais bien qu'une telle chose échappe à la représentation. Personne n'est capable de témoigner pour la pensée de quelqu'un d'autre, parce que la pensée existe précisément hors témoin. Pourtant, c'est ce que j'avais tenté de faire entendre dans mon scénario, la pensée de Melville, la population de ses pensées.
Merci, merci pour cette lecture, Marie-Sophie Ferdan, qui tombe donc ce jour où la nuit de la lecture aura lieu ce soir un peu partout en France, dans 29 pays. Il y a plus de 2000 lieux qui sont impliqués, 5000 animations sont prévues, donc vous trouverez nécessairement un événement près de chez vous. Allez, par exemple, je vais vous en donner quelques-uns. À la médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval, vous pourrez rencontrer la romancière Carole Five, qui a écrit « Tenir jusqu'à l'aube ». Alors ça tombe bien, hein, mais c'est chez Gallimard. À la librairie L'Armitière à Rouen, assister ou participer au tournoi des mots. C'est une compétition nationale d'improvisation littéraire marrainée par la romancière Delphine Duvigan, au cours de laquelle 4 équipes de 3 lycéens coachés par des slameurs s'affronteront dans des joutes littéraires inspirées par des auteurs classiques. À la médiathèque Alain Perfit de Montreux-Foltionne en Seine-et-Marne, l'acteur, auteur Timothée Laine donnera un récital de voix parlée à la carte, sachant qu'il connaît 300 textes de 123 auteurs par cœur, et c'est le public qui sera l'architecte du programme, etc. etc. Toutes les informations sont sur le site de franceculture.fr à la page des envies du week-end, des matins du samedi, et bien sûr sur www.nuitdelalecture.fr. On va quand même se quitter en musique avec votre choix musical. Vous avez choisi Danse de Lompa. Il vient de sortir un tout nouvel album, Janine, qui est sorti fin décembre et qui s'est déjà écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Mais Danse, c'est de son premier album, Lompal.
On l'a fait dans le sofa, je l'ai fait dans l'œsophage. Hey, hey. Pauvre de moi, je me souvenais pas qu'on avait le pouvoir de danser comme ça. Quand on se laisse aller, laisse-toi aller. Laisse nos énergies faire, je veux plus parler. Je donnerai tout ce que j'ai sur moi, juste pour te voir danser encore une fois. Quand tu te laisses aller.
Et c'est sur cette musique de Lompal que je vous remercie infiniment d'être venu ce matin encore une fois, Marie-Sophie Ferdan.